RFI 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. 9h30 à Port-Louis. Bonjour Édouard Dupénois.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'île Maurice pour commencer cette édition africaine, journée d'élections législatives.
Pour 1 million d'électeurs, en effet, la chambre unique du Parlement doit être renouvelée. C'est elle, ensuite, qui choisira le nom du Premier ministre. Une alliance entre plusieurs opposants et des organisations civiles en République démocratique du Congo. Coalition de circonstances pour défendre la Constitution, pour exprimer leur refus d'une modification de cette loi fondamentale, comme vient de l'engager Félix Tshisekedi. Police des mœurs, interdiction de voyager sans un homme, obligation du voile plus stricte encore. En Libye, le ministre de l'Intérieur de l'Ouest annonce une batterie de nouvelles règles particulièrement strictes pour les femmes. Reportage à Brazzaville aussi dans ce journal. La raffinerie nationale ne tourne toujours pas à plein. Le carburant manque encore dans la capitale congolaise. Et puis promenade dans un salon du livre à Alger qui se sent plus africain que jamais. L'Afrique subsaharienne à l'honneur aussi là. 1 million d'électeurs, 900 candidats, 62 sièges de députés à pourvoir. C'est une journée électorale qui a commencé tout à l'heure sur l'île Maurice. Élections législatives anticipées après la dissolution du Parlement au début du mois d'octobre. Trois blocs se font face. Celui du Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, il brigue un troisième mandat. Face à lui, la liste de Navin Ramgoolam, également ancien dirigeant. Ainsi donc qu'une troisième force qui a fait campagne sur le rejet de ces deux figures de la politique mauricienne. Présentation et enjeu de ce scrutin avec Amélie Culet.
Deux blocs emmenés par deux vétérans de la politique mauricienne ayant en commun d'être chacun fils d'anciens premiers ministres et une autre coalition veut être la troisième force dans ce scrutin, l'Union Réforme. Un scrutin après une campagne électorale de 6 semaines troublée par l'affaire des écoutes téléphoniques, la diffusion d'enregistrements de personnalités politiques et médiatiques et notamment un extrait de conversation compromettante attribuée à un haut responsable de la police donnant des instructions pour maquiller un décès. Les autorités mauriciennes dénoncent des manipulations via l'intelligence artificielle, mais Human Rights Watch s'inquiète du choix du gouvernement de suspendre les réseaux sociaux durant moins de 48 heures. Et si leur usage a été rétabli depuis, l'ONG rappelle le besoin de garantir l'accès à l'information et appelle à une enquête approfondie sur ce que les enregistrements auraient pu révéler. Pour ces législatives, le Premier ministre sortant espérait capitaliser sur l'accord passé début octobre avec le Royaume-Uni pour la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos. Mais durant la campagne, les électeurs se sont montrés plutôt préoccupés par l'insécurité, la lutte contre le trafic de drogue et leur pouvoir d'achat.
Amélie Tulay, on retrouvera Abdoulaye Rally, notre correspondant à Port-Louis en direct avec nous dans notre prochaine édition africaine, dans une heure. Une coalition politique et civile voit le jour en République démocratique du Congo contre l'idée d'une réforme de la Constitution. Une quinzaine d'opposants et de figures de la société civile viennent de signer un appel dit du sursaut national, parmi eux Délice Essenga, Jean-Claude Katende ou encore Fred Boma. Leur idée, c'est d'appeler à la mobilisation claire contre le projet du président Tshisekedi de réformer la loi fondamentale. Ils le suspectent de vouloir briguer un mandat présidentiel supplémentaire. Un premier meeting de défense de cette constitution est d'ailleurs prévu dans un mois. Patient Ligodi.
En engageant son régime sur la voie du changement de constitution, Félix Tshisekedi trahit la mémoire des non-martyrs, peut-on lire dans cet appel au sursaut national, signé par 15 figures de l'opposition de la société civile, dont l'ancien candidat à la présidentielle, Délice Essenga.
Que ce soit demain ou plus tard, si quelqu'un d'autre arrive avec le même projet, que ferons-nous ? Nous nous y opposerons sans hésitation. Plus jamais dans ce pays, quelqu'un ne viendra et n'essaiera de diriger au-delà de 2 mandats comme président de la République. Nous, Congolais, disons non. Trop, c'est trop.
Du côté de la société civile, on retrouve le mouvement citoyen Lucha ou encore l'Azado. Son président Jean-Claude Katende appelle à une union forte de toutes les couches de la société pour défendre la Constitution.
Il faut que nous, vous et tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, nous unissions nos forces. Ce n'est pas l'affaire des seuls hommes politiques ni des acteurs de la société civile, c'est l'affaire de tous les Congolais.
Premier rendez-vous, le 16 décembre, un meeting en hommage au référendum constitutionnel de 2005. Pour le moment, la Mouka de Martin Fayulu et les camps de Moïse Katumbi ne font pas partie des signataires, mais mènent leurs propres actions pour dénoncer le projet de révision ou des changements de constitution. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Le bilan de l'éboulement survenu cette semaine dans l'ouest du Cameroun est monté hier à 12 morts selon des chiffres donnés par la télévision d'État, la CRTV. Les autorités excluent désormais de retrouver des survivants alors que plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La dernière des 12 dépouilles a été sortie des décombres hier matin. Malgré tout, des recherches sont toujours en cours avec l'aide de volontaires sur place. Un tour de vis moral et sociétal annoncé en Libye. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Ouest, Imad Trabelsi, annonce une batterie de nouvelles règles qui concernent essentiellement les libertés des femmes. Obligation renforcée du port du voile, fortes restrictions attendues dans leur droit à se déplacer et à voyager seule. Le tout surveillé aussi par une police des mœurs dont le retour est attendu le mois prochain. Ouda Ibrahim.
Parmi ces mesures, selon l'officiel libyen, en plus du port obligatoire du voile, l'interdiction faite à la femme de voyager sans être accompagnée d'un homme ou sans l'autorisation d'un homme de sa famille. Il y a aussi l'interdiction de la mixité dans les cafés et les lieux publics. Les mesures touchent également la façon de couper les cheveux ou de s'habiller afin de respecter, selon lui, la spécificité de la société libyenne. De mesures de suivi seront appliquées dans les rues et au-delà, le contenu des réseaux sociaux seront contrôlés et les auteurs de textes jugés inconvenants aux mœurs seront poursuivis. Ces déclarations ont immédiatement divisé l'opinion publique. Certains s'y sont montrés favorables, mais une majorité a critiqué l'attitude du ministre qui, je cite, « au lieu de s'occuper de la sécurité des Libyens, s'attaque à leur liberté ». C'est le cas de Laila Ben Khalifa, candidate à l'élection présidentielle, qui accuse le ministre de vouloir gagner la sympathie des intégristes. Quant aux ONG des droits de l'homme, elles étaient unanimes à dénoncer des déclarations qui ne respectent pas la Constitution et les lois libyennes.
Ouda Ibrahim, 15 personnes au moins sont mortes lors de l'attaque d'un village dans le nord-ouest du Nigeria hier. Selon des informations données par le gouvernorat local, des responsables de ce gouvernorat feraient aussi référence à l'émergence d'un nouveau groupe terroriste dans la région. Le vice-gouverneur de cet état de Kebbi déclare que l'assaut a été mené à environ 50 km de la frontière nigérienne par des hommes armés encore inconnus, ce sont ces termes, sachant qu'il y a quelques jours, plusieurs autres autorités avaient averti qu'un nouveau groupe terroriste connu sous le nom de l'Akourawa s'était introduit dans le pays. Ces hommes seraient probablement originaires du Mali et du Niger. Plus de 9 mois après la mort de Yaya Dillo, un de ses proches conseillers publie un livre plaidoyer en la mémoire de l'opposant tchadien. Yaya Dillo, le sacrifice d'un héros incompris. C'est le titre de cet ouvrage où Abakar Ousmane Idriss revient sur les événements du 28 février dernier. Il les qualifie toujours d'assassinat, ce que les autorités de N'Djamena n'ont cessé de nier. L'auteur de l'ouvrage profite aussi de la sortie du livre pour lancer un appel au gouvernement, appel pour la libération ou au moins le jugement des 24 personnes qui étaient avec Yaya Dillo ce jour de février et qui sont toujours aujourd'hui enfermées au bagne de Korotoro en plein désert. Il demande également la libération du secrétaire général du PSF, Robert Gam, enlevé par les services secrets tchadiens à la fin du mois de septembre, juste après qu'il avait lui-même demandé la libération du groupe des 24 personnes.
Le 28, Yaya a été assassiné devant ses enfants et ses femmes, parce que ses femmes aussi étaient au siège. Et Yaya était avec ses cousins et ses neveux. Certains sont des militants du Parti socialiste, d'autres non, parce qu'il y avait des mineurs aussi. Y compris ses femmes étaient avec lui. Et lorsque Yaya a été assassiné, les militants ont épargné les femmes. Ils ont arrêté tous les jeunes. Ils les ont torturés et ensuite les déportés au niveau de Korotoro. Parmi les prisonniers, parmi les 24, il y a ceux qui souffrent aussi de maladies chroniques. Et je vous assure que beaucoup ne sont pas militants du Parti socialiste. Ce sont ses neveux et ses cousins qui étaient avec lui. Et personne ne parle de leur libération. Ils ont transformé ce problème de Yaya en problème familial. En fait, tout ce que nous demandons, on ne sait pas de quoi ils ont été arrêtés et pourquoi. Parce que jusqu'à là, ils n'ont pas été présentés devant un juge. Personne ne parle de leur libération. Et le secrétaire général du parti, M. Ngam Robert, on demande aussi sa libération ou bien soit le présenter devant un juge et nous dire pourquoi il a été arrêté et pourquoi ils l'ont enlevé.
Abakar Ousmane Idriss, joint par Esdras Dikoumana, les différents responsables tchadiens que nous avons contactés, n'ont pas réagi à nos sollicitations. Cela fait bientôt un mois que les rues de Brazzaville affichent le même visage. Des files d'attente qui s'étirent pendant des heures devant des stations-service fort peu achalandées, une pénurie de carburant qui se fait sentir depuis la mi-octobre et la colère qui s'en fait progressivement ressentir également. Le ministère des hydrocarbures parle de problèmes techniques sur la raffinerie nationale qui n'assure que 60% des besoins du pays, mais sans estimer de date encore pour un retour à la normale. Correspondance à Brazzaville, Loïcia Martial.
Dans cette station-service du centre-ville de Brazzaville, la file de voitures s'étend sur des dizaines de mètres. Les chauffeurs attendent depuis de longues heures, comme ce père de trois enfants.
Moi, je suis chauffeur de taxi. Je suis venu ici à la station faire la queue pour attendre le carburant. Bon, moi, mon véhicule est garé, ça fait de ça une semaine que je ne travaille pas. Donc aujourd'hui, j'espère bien avoir le produit et pour que je travaille demain. Ben, ça ne m'arrange pas du tout parce que moi, étant que chauffeur de taxi, je vis au quotidien. C'est-à-dire, si je travaille aujourd'hui, ça me permet de nourrir ma famille.
De l'autre côté de la station, un fonctionnaire à la retraite qui s'appuie sur une canne cherche désespérément un taxi pour rentrer chez lui dans le 5e arrondissement. Le prix de la course est passé du simple au double.
Quand il y a pénurie, il y a difficulté d'emprunter un taxi. Mais quand on emprunte le taxi, on ajoute quelque chose dessus pour vite arriver.
Une source au ministère des hydrocarbures indique que cette pénurie est la conséquence de, je cite, « des problèmes techniques au niveau de la raffinerie nationale, qui n'assure que 60% des besoins du pays ». Par ailleurs, le Congo-Brazzaville fait aujourd'hui face à des problèmes financiers qui peuvent expliquer les difficultés d'importation de produits pétroliers. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et c'est l'ensemble du continent africain enfin qui se retrouve en majesté dans les travées du SILA, le Salon International du Livre d'Alger. Grand rendez-vous littéraire que vous avez d'ailleurs encore une semaine pour visiter et pour y découvrir tous les auteurs d'Afrique subsaharienne qui y sont mis à l'honneur. Un espace entier de ce SILA est d'ailleurs dédié à l'Afrique. Il s'y tient des rencontres, des débats que suit notre correspondant. Reportage signé de Faisal Metawi.
Les débats tournent sur la littérature, l'histoire, le patrimoine et les langues. L'auteur Conan Kouadio est intervenu sur la littérature contemporaine en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est un pays qui a connu de grands noms, les Bernard Dadier, les Amadou Kourouma. Aujourd'hui, la jeune génération essaie de suivre les traces et même d'honorer en faisant mieux. Rafle des prix sur le plan national que sur le plan international.
L'éditeur algérien Karim Chir soutient l'espace Afrique et publie des ouvrages du continent.
On a lancé la collection Résonance, dans laquelle on peut trouver Sami Tchak, dans laquelle on peut trouver Habib Tengour, Atierno Moninambo, Yatanila Bonnet, Louis-Philippe d'Alembert, Patrice Nganang, le Camerounais, dans laquelle on a intégré quelques auteurs algériens, une manière aussi d'intégrer l'auteur algérien dans un contexte continental.
Mehdia est une grande lectrice des romans africains. Elle ne rate aucun débat à l'espace Afrique.
Aujourd'hui, plus que jamais, cette revendication de notre part africaine, elle est de plus en plus présente. D'ailleurs, l'an dernier, le SILA, l'invité d'honneur, c'était l'Afrique, le continent. C'est intéressant aussi qu'on se rappelle, c'est bien que nous sommes africains en premier lieu.
Le 27e Salon international du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 16 novembre 2024. Faisal Metawi, Alger, RFI.
Alger, où il est 6h43. Comme à Paris, Julien Coquelroem, c'est à vous.
Merci Edouard Dupénoit. À tout à l'heure. RFI Matin continue.